il y a un interdit de faire une bracha chez Natsricha. Faut bracha chez Natsricha, c'est faire une bracha qui n'est pas les batala, ce n'est pas une bracha qui est en vain, parce qu'on l'a fait sur une. Je prends une pomme par exemple, je fais bracha, bon, après, à être dessus. Ce n'est pas une bracha batala, c'est une bracha batala. Mais chez Natsricha, ça veut dire que j'aurais pu ne pas la faire. Par exemple, ce que j'avais déjà fait, bon, après, sur un autre fruit, il y a une heure, et peut-être que c'est encore valable. On va dire, et la bracha est valable pour encore maintenant, parce que je pensais pour tout ce que je mangerais durant l'heure qui viendrait. Mais c'est bracha chez Natsricha. Donc on n'a pas le droit de faire des brachot chez Natsricha, des brachot qu'on n'a pas le droit de faire, qui sont inutiles, vu qu'on aurait pu s'arranger autrement. D'autres cas, par exemple, chaque euro sur chaque verre d'eau. Bon, des choses de ce type-là. C'est une interdiction connue. Une interdiction qui est moins connue, mais qui revient au même. De même qu'on n'a pas le droit de faire des brachot chez Natsricha, des brachot donc inutiles, en trop. Pas le droit non plus de faire des kaddish en trop. Il ne faut pas faire beaucoup de kaddishim. Des fois, les gens ils sont dans l'année de leurs parents et ils veulent faire beaucoup de kaddishim, et à droite et à gauche, en voiture, voilà. D'accord ? C'est un problème parce que, bien qu'on ne dise pas le nom de Dieu en vain, néanmoins, c'est un très grand louange qu'on fait à Hachem. On ne peut pas le faire comme ça trop. Hein. Néanmoins, il faut savoir que les kaddishim qu'on fait après l'étude de Torah, il y en a deux. Il y en a un qu'on fait après l'étude de Torah écrite. C'est quoi la Torah écrite ? C'est tout ce qui est la Bible, le canon biblique, les 24 livres de la Bible. Et dans ces cas-là, on fera après le kaddish qu'on appelle Yeshlama. On rajoute, c'est un passage qui s'appelle Yeshlama. Quand on fait par contre tout ce qui est autre Torah que la loi écrite, donc la loi orale, que ce soit du Talmud, la Gada, la pensée juive, la Kabbalah, tout ce que vous voulez, ça sera, on fait le kaddish à l'Israël. Et là, il est permis de faire, par exemple, quand on va sur les tombes d'un défunt pour l'année, etc., on veut faire maintenant deux kaddishim. Alors on dira par exemple Tehilim. Tehilim. C'est la Torah Shebirtav, c'est donc fait partie des 24 livres de la Torah. Après, les endeuillés ou les enfants feront le Kaddish Yeshlama. Et juste après, on lira 2-3 Mishnayot, mais peu importe, on peut lire aussi autre chose qui est de la Torah Shebalpé, de la Torah orale, et on fait un Kaddish à l'Israël. Comme on fait la loi, quand on étudie la loi orale, le Kaddish qu'on fait après ça, c'est le Kaddish à l'Israël. Et là, il n'y a pas un problème de faire trop de Kaddishim. Parce que ce sont deux kaddishim différents pour deux sortes d'études de Torah différentes. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas le problème de dire beaucoup de kaddishim, et c'est tout à fait permis d'agir ainsi. Tous les kaddishim de la prière sont obligatoires, à part le dernier avant Alon Shaber. Je vous rappelle que le kaddish durant la prière, il a une fonction d'empêcher les forces du mal de monter avec notre prière, et aussi de prendre le flux de la prière après la prière. Donc à chaque étape qu'on va monter de monde en monde, dans la prière, on monte depuis le monde le plus bas qui est Assia. Dès qu'on commence Baruch Shamar, on passe de Assia à Yetzira. C'est vrai qu'on aurait dû faire le Kaddish à ce moment-là, mais on fait le Kaddish, nous on commence déjà à Odou, on fait déjà le Kaddish. Les Ashkenazim, ils font le Kaddish et directement Baruch Shamar. Après, à Yotzer, on passe à Bria. On ne fait pas de Kaddish quand on passe à Tzilut, parce que c'est un niveau très très haut. On n'a pas le droit d'arrêter entre Gal Israël et le début de la Midah, Shem Sarat Tiftach. Là, on passe à Tzilut. Après, on redescend à Shrei, Tfilah David et Kavé. Ok, maintenant, ça nous fait en tout 5 Kaddishim.
Ce n'est pas les mêmes.
Mais tous commencent la même chose, d'accord ? C'est ça l'essentiel. C'est 5 kaddishim qui vont donc séparer la montée et la descente, et chaque étape de la montée, chaque étape de la descente de la prière. Le dernier kaddish qu'on est avant Alon Shaber, qu'on appelle kaddish yatom, kaddish orphelin. C'est le seul, en fait, les gens croient que tous les kaddishim ont la faculté de faire monter les défunts. C'est vrai que le kaddish qu'on dit après l'étude fait monter le défunt de monde en monde, il fait sortir de l'enfer, le fait monter de monde en monde, mais celui de la prière, absolument pas. Le seul, c'est le dernier, qu'on appelle pour cela Kaddish Yatom, Kaddish Orphelin, qui est facultatif, qui n'est pas obligatoire, après lequel on dit Baruch Hu. Normalement, ce sont que des personnes ou qui sont dans l'année de leurs parents, ou qui ont déjà perdu leurs parents durant leur vie, qui diront ce Kaddish. Quelqu'un qui veut le dire pour un défunt ou un grand-père, ou un oncle, ou même qui reçoit de l'argent de la part d'une famille pour dire ce kaddish, pour une personne défunte à propos de quelle personne ne dit le kaddish, il peut le faire, à condition qu'il ait reçu l'autorisation de ses parents. D'accord ? Les parents, des fois, peuvent ne pas être d'accord que leur fils dise kaddish, le kaddish yatom, kaddish orphelin, du genre tu m'as déjà enterré. Il y en a qui sont très maquillés là-dessus, qui sont, ça leur dérange. Mais si les parents disent ça ne me dérange pas, on n'a pas de problème, n'importe qui peut dire ce kaddish-là pour un défunt. Sinon, si on se trouve maintenant dans une synagogue où il n'y a personne qui a des parents défunts, Baruch HaShem, et personne qui a reçu une autorisation de ses parents de dire le kaddish pour un défunt, bien que les parents soient vivants, alors ce kaddish-là, on ne peut pas le dire. C'est dommage, ça vaut la peine de le dire, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, le premier kaddish de la prière, celui qu'on dit avant Hodou, c'est pas le Charles Sibour qui le dit. Charles Sibour, lui, il fait une apparition pour Baruch, le kaddish de Baruch. Là, il faudra impérativement, il faut le dire normalement, ce kaddish. Il faudra impérativement que ce soit quelqu'un qui le dise, si possible, comme j'ai dit, quelqu'un dont les parents sont déjà décédés, ou quelqu'un qui a reçu l'autorisation de ses parents de le dire. Bien que, ce n'est pas le kaddish yatom, donc normalement le parent devrait accepter, mais vu que les gens dans leur tête ils mélangent, et dès qu'ils voient quelqu'un qui dit le kaddish, ce n'est pas le Shahar Tzibour, ils se disent oh là là, celui-là il est orphelin, mais c'est une erreur à propos du kaddish de Hodou. Vu que les gens vivent avec cette erreur, les parents peuvent être makpidim, ne pas être d'accord, qu'est-ce que tu dis maintenant à Kaddish, comme si tu m'enterrais, je suis encore vivant. Je ne t'ai pas dit Kaddish de Yatom, Kaddish orphelin à la fin de la prière, j'ai dit Kaddish au début de Hodou. Ouais, mais les gens, ils comprennent que même quand tu dis le Kaddish de Hodou, c'est comme si tu étais un orphelin, parce que c'est vrai que ce n'est pas le Charsibour qui le dit. C'est pour cela que ça compte, donc préférable que ce soit quelqu'un qui a reçu l'autorisation des parents, ou quelqu'un qui est vraiment orphelin, qui disent ce kaddish-là. Mais il est obligatoire. Par contre, le dernier kaddish n'est pas obligatoire. S'il n'y a pas de personne qui est là pour le dire, on dira Baruch Hu, le Charles Tzibour dit Baruch Hu, le public répond Baruch HaShem Ovoach L'Olam Va'ed, et on dit Al-Nusha Ver, et terminé. Il y a une coutume dans certaines communautés de dire c'est un kaddish après Al-Nusha Ver, c'est un kaddish certainement facultatif. Beaucoup de communautés ne le disent même pas. Oui, il y avait une question ? Oui.
On peut donner le kaddish au nom d'un personne qui reçoit un enfant. On ne peut pas trop chercher un défunt. Quand je fais le kaddish au nom d'un défunt.
Oui, mais il faut que tes parents aient accès.
Je peux le dire par exemple au nom de.
Oui, ouais, tout à fait. Donc on peut dire kaddish pour qui on veut. Mais il faut qu'on soit ou soi-même orphelin, ou que nos parents aient donné le.
Et si nos parents sont à l'étranger, qu'il ne va pas avoir de col, tout ça, on peut.
Le col, qui a offert le rita col, c'est marqué. D'accord le col, la voix, la réputation, le truc qui passe. Ah, j'ai vu ton fils. Ah, t'es vivant, je suis content de voir t'es vivant, quoi, pour moi. Je viens d'Israël, j'ai vu ton fils dire le kaddish.
Ouais. Le kaddish, combien de temps après là-bas?
Toute ta vie.
Tout le temps?
Ouais. Tu peux le dire un siècle après, pour un défunt de. Tu dis maintenant, kaddish pour Abba Akiva, dis-le, il n'y a pas de problème. Ouais, pourquoi pas.
Alors, ça fait quoi si on est dans une synagogue et qu'on Kaddish, il fait Kaddish, mais il n'a pas eu l'autorisation de ses parents et il n'a pas eu de. Il n'a pas eu de proche son
histoire. Ok, alors on peut répondre, on doit répondre à son Kaddish, mais lui, quelque part, il transgresse son problème de qui vous l'avez, d'honneur de ses parents. C'est pas un problème dans le Kaddish en lui-même. Quelqu'un dit le Kaddish, c'est bien que quelqu'un dise le Kaddish à ce moment-là, surtout le Hodou, dont je parle, qui est obligatoire. Mais si lui n'a pas reçu l'autorisation, ok, alors il a transgressé un problème de qui vous l'avez. Mais c'est pas le Kaddish en lui n'est pas touché.
Et pourquoi le Shahar Tzibour il ne peut pas le dire ? Il est de Hodou, à Hodou.
Il pourrait le dire, mais c'est vrai que c'est pas l'habitude. C'est pas. Pour nous, les Sfaradim, contrairement aux Ashkenazim, quand on répond le Kaddish, on doit répondre 28 mots, jusqu'à Be'alma. Le quatrième Amen du Kaddish, celui qu'on dit après Berichu, qui est un mot qu'on dit au milieu de ces 28 mots. C'est le, je sais pas combien, vers 17e mot par exemple, hein, je n'ai pas compté. 17e mot, Jarzibou arrive au mot Berichu. Nous, il faut normalement essayer de terminer notre Be'alma. Non, il n'y a pas besoin d'essayer même. Si quelqu'un il est arrivé maintenant à Be'alma, avant que Jarzibou il arrive à Berichu, donc il répond à l'amen de Berichu. Il n'est pas encore arrivé à Be'alma. Le Shahar Tzibour déjà arrivé à Berichu, ce qui est normal, parce que toi, Béalma, ça te prend dans le double du temps que le Shahar Tzibour. Et s'il est très rapide, bon, tu peux pas y arriver. Le Amen du Berichu est facultatif et tu le dis pas. Il est obligatoire, on va dire. Il est obligatoire quand Tu peux le répondre, mais si tu n'as pas encore terminé Béalma, alors tu ne réponds pas. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je suis lent et le Shartibour est extrêmement rapide? Et moi, j'arrive à Béalma après que, enfin, on va dire comme ça, le Shartibour est arrivé à Béalma et moi, je ne suis pas encore arrivé à Béalma. Est-ce que je dois répondre maintenant à la main de Béalma et m'arrêter au milieu de mes 28 mots? Je n'ai pas encore fini. Ou non, je continue, pépère, et tant pis pour le deuxième amen. C'est-à-dire le amen de Béalma, je ne réponds pas non plus, je continue jusqu'à Béalma. Alors, Yosef, il dit non, si tu n'es pas arrivé à Béalma, et déjà Charsebourg est arrivé à Béalma, tu dois répondre Béalma, tu dois répondre l'amen de Béalma. Alors, Rabbi Shimon Abashaou, j'ai vu ça dernièrement, il dit non, vu que c'est extrêmement important, il y avait une preuve de Rabbi Noari, Charles Kavanot, que Charles Kavanot, il dit que si tu n'es pas, il faut dire le Béalma et pas répondre l'amen. Et il ne fait pas de chilouk, il ne fait pas de nuance entre quel amen. Le amen de Berichou, le amen de Béalma. De là, on déduit la même preuve du Ben Ishraï dans son livre Rav Pealim, comme quoi, si on n'est pas arrivé à Béalma et que le Shartibour est arrivé lui à Béalma, on ne répond pas. On continue jusqu'à notre Béalma, tranquille, en ratant le Amen aussi de Béalma. Donc, c'est une marloquette. A priori, le mieux, c'est quand même essayer d'arriver à notre Béalma avant ou en même temps que le Shartibour pour répondre Amen. Sinon, bah, chacun fera d'après son Rav. Et shalom à l'Israël.
Si oui, tous les deux en même temps, à Berichou,
tu peux répondre.
C'est parce que
toi,
on doit répondre jusqu'à Berichou, bien sûr, jusqu'à Berichou. Bien sûr, tout le monde. C'est pas bien. Ça, c'est Minak, je sais pas d'où. Ashkenazi, peut-être marocain, parce que je connais pas, mais sûrement, ils sont influencés par Ashkenazi. Chez nous, donc, dans le monde Sfarad, le Rabbi Yosef, le Rabbi Slama Shaul, le Mordechai Eliyahu, le Ben Ishraï, tout le monde est d'accord. On a reçu des paroles de Rabbi Noari, on bouge pas de cela. Et même les Marocains, il y a une tradition dans la famille de Baba Salé, donc Abou Khatsera, que la Lacha, ils font tout comme Ben Ishraï. À part les endroits que Rabbi Yaakov Abou Khatsera, il a dévoilé autrement. Pourquoi? Parce que la mère du Ben Ishraï était stérile. Elle habitait Bagdad. C'était en 1820-1830, il y a Rasra. D'accord? Et elle est partie depuis, elle a pris un très grand rabbin au Maroc, Rabbi Yaakov Abou Khatsera, qui habite tout, enfin pas le Maroc, c'est le désert déjà où il habite, Filalet là-bas. Elle est partie depuis Bagdad, toute seule, Madame Moshe, la femme de Rav Moshe Chaim, comme ça il s'appelait, et Rav Moshe, d'accord. Et elle est partie jusque là-bas de Philalette, prendre une bracha du Rav, verser une bracha, elle est tombée enceinte, et elle a mis au monde le Ben Ishraï. Vu que donc, quelque part, le Ben Ishraï, c'est grâce à la bracha de Rabbi Yaakov, c'est une tradition qui font la bracha comme Ben Ishraï. À part cet endroit où Rabbi Yaakov aurait dévoilé qu'on fait autrement. Donc je pense que dans la région de Philalette aussi, ils doivent faire jusqu'à Béalma, à moins que c'est une coutume différente, que le Rabbi Yaakov n'a pas réussi à imposer cela. C'est clair que c'est bien de faire ainsi. Rabbi Noari le dit. Qui va venir après Rabbi Noari et dire qu'on va faire autrement? C'est extrêmement difficile.
Comment c'est que le Sfarad, moi je suis le Rezan, il était Ashkenaz ou Rezan?
Il était Sfarad.
C'est vrai?
Ouais. Tous ceux qui s'appellent Ashkenazi, c'est les gens qui sont Sfarad, parce qu'on appelle Ashkenazi. Quelqu'un, un Ashkenaz qui habite en Ashkenaz, on l'appelle Ashkenazi. C'était à l'origine, il était Ashkenazi, à l'origine. Mais quand il est venu après dans le monde Sfarad, il est venu Sfaradi. Le Beit Yosef, il écrit que si des Ashkenazim arrivent dans une communauté Sfarad, ils doivent devenir Sfarad. Il écrit comme ça très 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 clairement dans son livre Avkat Rochel. Pardon ? C'est pas écrit. Mais j'imagine que oui. Je pense pas qu'il y ait de différence. Pardon ? Voilà. Je pense pas qu'il y ait de différence. Donc, maintenant, Rabbi Noari est né en Égypte. Il est né en Égypte, non. Non, il est né en Israël. Et son père décédé. Et après, lui, il est parti en Égypte. Et après, il est revenu plus tard.
Arabe, voilà.
Pardon ?
Parler arabe au Médio, en plus.
Sûrement. Sûrement parler arabe.
Ouais. Alors, si maintenant on prie dans une Keïla Ashkenaz, est-ce qu'il vaut mieux être Mekil si on n'arrive pas au Béalma? Est-ce qu'il faut dire Berichou d'abord? Est-ce qu'il faut dire Berichou?
Tu dis le Kaddish?
Quand on est dans une Keïla Ashkenaz.
Tu dis le Kaddish ou tu réponds le Kaddish?
On répond le Kaddish.
Tu réponds comme un Sfarad.
En doucement, on peut répondre quoi? Mais sur le petit goudou, il y a un problème ou il y a un problème?
Est-ce qu'on le petit goudou? Laura vous parle de cela ici. Alors il dit comme ça, il dit qu'à propos de Béalma, vu que c'est très important, c'est Rabbi Noari qui l'a dit, il répond jusqu'à Béalma. Et même quand lui-même il dit le Kaddish, il devrait dire comme lui dit, c'est-à-dire que nous raconte, on rajoute le mot Vikar Meshiché, ou plus autrement, eux ils escamotent dans certaines communautés ashkénazes, pas sfardes, ashkénazes, ils escamotent un Amen. Ils ne disent pas Vikar Meshiché. Ils sautent cela. Quelqu'un maintenant sfarad qui dit le Kaddish dans un minyan ashkénaze d'Italie, qui escamote le Vikar Meshiché, il le dit. À moins que ça fasse des histoires. Si quelqu'un veut lui dire, t'es chez nous, tu dois faire comme nous, des fois ils mettent un grand. Dans l'annonce, celui qui prie doit prier après le Noussar de chez nous et pas autre. Ils ne veulent pas que ça se fasse autrement. Là, tu es obligé de tempérer parce que tu n'es pas chez toi. Mais si maintenant il n'y a pas de problème de ce type-là, donc tu fais d'après ton Noussar à toi, donc idem, plus forte raison, répondre jusqu'à Béalma. Par contre, dans la suite, dans Yeshlama, nous on rajoute, beaucoup, eux ils sont beaucoup plus courts. Vu que la partie de Yeshlama, c'est une demande. C'est pas beaucoup plus que cela. Là, il n'y a pas de problème de escamoter pour arriver en même temps que les autres. D'accord ? Sinon, ça fait un problème au niveau de la synchronisation des amens. Donc, après Béalma, vu que ce sont que des prières moins importantes, donc on pourra escamoter la partie Sarat pour faire comme la partie Ashkenaz. Mais la première partie, on la fera comme les Saradim. Autre différence que donne le Rav Ben Sion Abba Shaoul, le Rav Ovadia Yosef, il écrit que si on a. Donc il fallait 10 personnes pour avoir le Kaddish, on a déjà vu cela. Si le 10e, c'est un enfant, d'accord, il n'a pas encore 13 ans. Il lui dit il faut sortir, fuir de la synagogue, quitte à ce qu'il n'y ait pas de Kaddish à cause de toi, quoi. C'est à cause de toi, tu es 10e, d'accord.
Si nous croyons, c'est qu'on pense le Kaddish avant même qu'on est coincé à l'intérieur.
Pardon.
Si nous croyons, genre.
Ok, alors on peut compter sur ce que dit le Rav Ben Sion Abba Shaoul qui dit que non. Vu que ça c'est un psak ashkenaz, c'est un psak sfarad, c'est vrai, d'ashkenazim, le réma il dit que oui, chez nous la coutume est qu'on peut trouver un dixième qui est moins de 13 ans et l'associer au minyan. Dans ce cas-là, donc a priori dit on ne fera pas comme ça, mais si maintenant tu es un minyan qui est pareil, au lieu de fuir, tu peux répondre amen. Tu peux répondre et Mishmara et Yeshmara.
Alors, oui. 10, c'est-à-dire 9 qui répondent amen et 1 qui fait l'office.
Ouais, 9 qui font amen plus 1 qui dit le kaddish.
Donc il n'y a pas 10 qui répondent amen.
C'est vrai, mais on est 10, parce qu'il faut que la shrina soit présente. Il y a la question que pose le Ben Yishra, il dit, voilà, tous les personnes, voilà, ils sont tous du troisième âge, et ils font par exemple Teilim ensemble, et après, ils veulent dire Kaddish. Alors, qui dit Kaddish? Ben, les 10. Alors, chacun dit, mais qui répond Amen? Il n'y a personne qui répond Amen. Alors, il dit qu'il faut essayer qu'il y ait quand même un qui répond Amen. Comme ça, il y a le Ben Yishra, et que... Voilà, c'est ça. Ok, on a vu aussi que si... Il y avait 10 personnes qui étaient présentes, mais 4 qui sont encore dans leur Amida. On pouvait dire le Kaddish, parce qu'ils sont là, mais qui ne répondent pas. Néanmoins, ils sont présents, donc il y a la Shrina qui est là. Le Rav Ben Sion dit la même chose, mais il dit qu'a priori, c'est quand même mieux d'attendre qu'il y ait au moins 9 qui répondent. Donc, on peut, donc que les 10 soient et fini leur Amida. Donc a priori, c'est mieux d'attendre que les 10 aient fini leur Amida. Et là, on dit le Kaddish. On pourra compter Bediavad. S'il y en a 4 qui sont encore dans la Mida pour faire le Kaddish. Alors, on va dire ça, veut dire non, c'est même a priori, tu peux compter sur les 4 qui sont encore dans la Mida et faire le Kaddish, pas besoin d'attendre. Et si maintenant plusieurs personnes disent Kaddish, et il y en a un qui dit, bah, qui dit avec eux, mais vu qu'il y a beaucoup de brouhaha, il n'y a pas 10 personnes qui l'entendent à lui dire le Kaddish. Que les gens juste à côté de lui. Est-ce que lui peut dire le Kaddish, oui ou non? Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas 10 qui l'entendent. Oui, ça va parce qu'il rentre dans le clal, dans la collectivité de tout le monde. Bah, ou Hadonai, ou Amen.